Bonjour, c'est Fred. Vous êtes bien dans l'émission Combien de temps encore sur CFM Radio. Alors aujourd'hui, on va faire une émission spéciale anti-chasse. Et on a vraiment l'honneur de recevoir Pierre Rigaud, qui est l'auteur de Pas de fusil dans la nature, des réponses aux chasseurs, avec une préface de Nicolas Hulot. Alors Pierre Rigaud, il est biologiste de formation. Et il est naturaliste spécialisé dans les mammifères et les oiseaux et grand connaisseur de la faune sauvage. Donc il a écrit ce livre, on apprend plein de choses, il y a plein d'éléments concernant la chasse. Et voilà, il nous fait l'honneur d'avoir accepté l'entretien, donc on le reçoit. Bonjour. Pierre Rigaud.
Bonjour.
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 Donc vraiment merci infiniment d'avoir accepté cet entretien. Je vais tout de suite conseiller aux auditeurs votre livre Pas de fusil dans la nature, les réponses aux chasseurs. C'est vraiment, alors c'est très bien documenté, c'est très clair, c'est très limpide. La documentation un peu plus si on veut faire des recherches de documentation, il y a toutes les notes bibliographiques à la fin de l'ouvrage, et je recommande vraiment aux auditeurs d'acheter et de lire ce livre. Voilà. Alors
merci à vous et merci pour l'invitation.
Donc on va commencer tout simplement par le problème de la chasse. Début septembre, donc c'est le grand carnage qui a recommencé. On verra que parfois il dure toute l'année, on verra ça plus tard dans les enclos. Alors c'est un carnage légalisé. Moi j'aurais envie de dire que de toute façon, quels que soient les prétextes, quels que soient les arguments, c'est même pas des arguments, j'appelle ça des prétextes que donnent les chasseurs. C'est un avis personnel, mais pour moi la chasse, elle est moralement injustifiable. On tue des êtres vivants, des êtres sensibles. On n'a absolument plus aucune raison à notre époque de tuer un animal pour subsister. On sait en plus qu'on n'a absolument pas besoin de protéines animales pour vivre. Donc le prétexte de l'alimentation, il est, en tout cas dans nos régions et en Europe, il ne peut absolument pas être mis en avant. Alors on va voir aussi qu'il ne manque pas de prétexte pour s'infiltrer partout. C'est pareil, moi j'ai envie de dire que n'oublions pas que leur principal objectif, c'est de tuer d'autres êtres vivants. Voilà. Et que le reste, à mon avis, ce ne sont que des prétextes. Malheureusement, de moins en moins je pense, mais malheureusement ça prend encore pas mal, et on verra aussi qu'il y a des raisons financières tout simplement qui entrent en jeu. Alors si on se débarrassait de ce prétexte de régulation. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais ça serait peut-être... On sera au moins débarrassé de ce premier prétexte. Alors, c'est quoi la régulation ?
La régulation, c'est vraiment le grand prétexte, justement, que mettent en avant les chasseurs depuis pas mal d'années pour justifier la chasse. Alors ils ont des arguments qui reviennent toujours, qui sont toujours les mêmes, qui consistent à dire que les chasseurs sont là, heureusement, pour réguler, empêcher des animaux sauvages de proliférer, selon eux. Alors, ce qui est assez paradoxal quand on regarde la réalité des animaux qui sont tués à la chasse, puisqu'en fait, une grande partie d'entre eux, la majorité, ce sont des oiseaux, notamment des oiseaux migrateurs, aussi des oiseaux pas forcément migrateurs, mais qui sont pour beaucoup d'entre eux des espèces en déclin d'effectifs, donc régulées, des espèces qui sont déjà menacées, pas forcément par la chasse, d'ailleurs souvent c'est des oiseaux, des espèces qui sont menacées par tout un tas de facteurs, l'agriculture intensive, les pesticides, l'urbanisation, puis la chasse se rajoute à tout ça, et c'est un facteur de plus qui fait disparaître les populations d'oiseaux, par exemple. Donc là, la régulation n'a vraiment pas de sens. La régulation des renards, par exemple, comme les chasseurs le disent souvent, ça n'a pas plus de sens, puisqu'il n'y a aucun scientifique qui vous dirait qu'il faut réguler des renards. on sait même pas combien il y a de renards et pourquoi il faudrait les réguler, en fait. C'est assez idéologique, hein, comme vision des choses, je pense, la fameuse régulation. Et puis la régulation, les chasseurs en parlent aussi beaucoup, et surtout pour les ongulés, les mammifères herbivores comme les chevreuils, les cerfs, et puis les sangliers. Alors tous ces animaux, les ongulés sauvages sont tués en très grande quantité à la chasse, mais ça ne représente en réalité qu'une infime partie des animaux tués à la chasse. Hein. Tous ces animaux chevreuils, cerfs, sangliers, ça représente moins de 5% de la totalité des animaux tués à la chasse en France. Donc, c'est vrai qu'il y a des difficultés parfois de cohabitation avec les activités humaines entre des populations, par exemple, de sangliers et des champs, des cultures de céréales ou autres. Donc, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des conflits d'usage ou des difficultés de cohabitation, de coexistence avec ces animaux-là. Donc là, on peut en effet examiner si ça aurait un sens sur un plan strictement... écologique ou scientifique, de réguler, bon, en dehors de toute considération sur l'éthique, hein, mais sur ces questions de cohabitation, ça pourrait mériter un examen, mais en regardant bien qu'il s'agit de toute façon de quatre extrêmement minoritaires, puisque de toute façon 95% des animaux tués à la chasse, ce sont des petits mammifères carnivores, des oiseaux migrateurs, pour lesquels il n'y a strictement aucun besoin sur un plan écologique de régulation. Et puis quand on regarde par exemple les chevreuils ou les cerfs, quand ils causent, dit-on, des dégâts, c'est essentiellement à des plantations forestières. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a trop de ces chevreuils ou de ces cerfs, ça veut dire que des fois il y a une utilisation de l'espace qui n'est pas évidente à partager avec ces animaux-là, et que la moindre utilisation d'une forêt, par exemple, pour planter des arbres, pour faire de la sylviculture, fait que les cerfs ou les chevreuils vont manger les petites pousses, et qu'il faut protéger les arbres contre la dent de ces animaux-là. Mais en fait, ils sont pas si nombreux que ça. Et puis même dans la plupart des forêts de France, il y a même tout simplement aucun cerf, par exemple. Donc c'est délicat de parler de pullulation, comme le font parfois les chasseurs. Et quand on examine le cas du sanglier, qui est un cas vraiment à part, alors lui qui représente à peu près 2% de la totalité des animaux tués à la chasse en France, eh bien les sangliers, qui sont, c'est vrai, beaucoup plus nombreux en France, plus largement en Europe, beaucoup plus nombreux qu'il y a 30 ou 50 ans, eh bien il faut bien expliquer que cette, entre guillemets, prolifération, comme disent les chasseurs, en tout cas cette augmentation du nombre de sangliers, elle est due historiquement à beaucoup de facteurs, mais notamment les chasseurs eux-mêmes, qui, depuis les années 70 et jusqu'aux années 2000 à peu près, ont élevé des sangliers en captivité pour les lâcher dans la nature, les ont croisés avec des cochons, puisque les sangliers sont les ancêtres des cochons domestiques, donc ils se reproduisent et donnent des descendants fertiles. Les chasseurs nourris les sangliers dans la nature, ils ont fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de sangliers pour pouvoir en tuer toujours plus, puisque c'était vraiment leur intérêt, c'était avoir un gibier qui soit abondant, qui soit présent partout. Donc les chasseurs, maintenant, sont un peu dépassés par la quantité de sangliers. À la fois, ils sont contents d'avoir énormément de sangliers à tuer, parce que ça leur permet de dire qu'ils sont des régulateurs, entre guillemets, nécessaires. Et puis à la fois, ils sont quand même un petit peu dépassés, parce que malgré les 700 000 sangliers tués tous les ans en France à la chasse, eh bien les populations de sangliers continuent à croître, ce qui pose des difficultés, c'est vrai, réelles, sur certaines activités agricoles. Mais après, on peut regarder dans le détail qu'en est-il de la coexistence entre ces animaux et quelle culture, et pourquoi, voilà, ça pose, ouais, problème.
Voilà, c'est ça aussi, c'est ce que vous soulevez dans votre livre. C'est que, disons que, en plus, avant d'aborder le problème vraiment intéressant que vous soulevez, au niveau justement de la culture du maïs, par exemple, de toute façon, et c'est ce que vous dites aussi dans une autre partie du livre, même si après avoir étudié tous les facteurs, et notamment le facteur humain, qui empiète quand même de plus en plus sur le peu d'espace sauvage qui reste aux animaux libres. Si après avoir étudié tous ces facteurs, effectivement, il y a une régulation à faire, il y a d'autres moyens tout simplement que de tuer. Il y a le moyen, enfin le plus simple auquel on pense, et il y en a peut-être d'autres, qui est la stérilisation tout simplement.
Oui, alors la stérilisation, il faut faire très très attention parce que ça peut avoir l'air simple, mais en fait c'est extrêmement complexe hein, sur un plan écologique ou scientifique parce qu'on peut pas dire comme ça, juste on va stériliser les sangliers en deux coups de cuir à peau parce qu'en fait c'est déjà techniquement c'est complexe à faire. Il faut regarder quelles sont les conséquences ensuite. Parce que ça pourrait avoir des conséquences, par exemple, sur le comportement individuel des sangliers ou sur d'autres facteurs en cascade, comme toute question écologique. Hein, c'est toujours une question de système global. Il faut regarder toutes les implications. Mais en tout cas, en effet, c'est une solution qui peut être envisagée puisqu'elle a déjà été testée ailleurs, notamment en Amérique du Nord. Et ça peut fonctionner, mais pour ça, il faut faire des études précises là-dessus. Il faut avoir envie de regarder il faut avoir envie de regarder comment c'est possible de le faire. Mais ça, aujourd'hui, tous les dirigeants français, les ministres de l'écologie ou de l'agriculture, et puis les chasseurs eux-mêmes, n'ont pas du tout envie d'examiner cette question-là. Pour eux, la seule solution, c'est de tuer toujours plus de sangliers. Donc, on met les moyens sur le fait de tuer les sangliers en donnant toujours plus de pouvoir aux chasseurs et toujours plus de possibilités pour les chasseurs de tuer des sangliers toute l'année, au lieu d'essayer d'envisager scientifiquement d'autres solutions. Et puis, au lieu d'essayer de revoir aussi le système...
Le système en lui-même au niveau du système agricole. On fait une petite pause et on en parle tout de suite après, parce que je crois que c'est vraiment important. Et on fait juste une petite pause musicale. Open up when you had me in your hands. êtes bien sur CFM Radio dans l'émission Combien de temps encore ? Et nous sommes donc en entretien avec Pierre Rigaud, naturaliste, auteur du livre Pas de fusil dans la nature, les réponses aux chasseurs. Donc là, on aborde le problème important des cultures. Même les forêts ne sont pas épargnées, et de l'exploitation de plus en plus grande, l'exploitation des activités humaines. Donc qui empiète sur qui, en fait, parce qu'on régule le sanglier, mais il y a de plus en plus de champs de maïs. Donc c'est voilà, on peut quand même se poser la question d'une remise vraiment en question de notre mode d'agriculture, tout simplement, je pense.
Oui, oui, oui. Les sangliers causent des dégâts à des activités humaines, particulièrement, essentiellement des cultures. Alors de façon très très diverse, hein, parce que n'importe quelle petite parcelle maraîchère, n'importe quelle petite prairie ou autre peut être à un moment impactée par des sangliers. Il ne faut pas le nier, donc ça peut causer des problèmes à n'importe quel agriculteur, même un cultivateur bio très extensif avec des petites parcelles très écolo. Donc ça peut exister, mais après il y a quand même des moyens de protéger les parcelles avec des clôtures spéciales qui fonctionnent relativement bien. Mais surtout, ce qui est important de regarder, c'est que les sangliers, quand ils causent des dégâts dans les cultures, c'est en très grande majorité sur des cultures intensives, et particulièrement le maïs. Et en fait, la majorité des dégâts sont concentrés sur une minorité des agriculteurs, qui sont en particulier les maïsicultures intensives dans le sud-ouest de la France, dans le nord-est, en fait là où il y a le plus de ce type de culture, parce que les sangliers adorent le maïs. Et c'est pas étonnant puisque les maïs d'ailleurs sont cultivés en France, et puis c'est pareil dans le reste de l'Europe, en majeure partie pour nourrir les animaux d'élevage et notamment les cochons, descendants domestiques des sangliers. Donc les cochons, mais aussi les poulets élevés de façon intensive, les vaches laitières pour le maïs fourrager, parce que le maïs il est cultivé soit pour faire du fourrage, soit pour faire des grains, et c'est quasiment jamais pour l'alimentation humaine, c'est presque toujours pour l'alimentation des animaux d'élevage, et en particulier, en fait, en majeure partie, les élevages intensifs, aussi pour l'industrie, pour faire toutes sortes de produits non consommables, pour l'exportation, c'est-à-dire un système agricole vraiment pas du tout basé sur la subsistance des humains localement, mais soit pour l'exportation de façon vraiment commerciale et industrielle, soit de façon assez atroce pour élever tous les animaux dans les hangars concentrationnaires, faut bien le dire.
Ou dans ou les enclos à sangliers, ou les enclos à chevreuils pour la chasse. Je pense qu'ils doivent aussi...
Ça représente un volume beaucoup plus faible, ouais. Mais en effet, il y a une partie des chasseurs qui utilisent des maïs pour nourrir les sangliers eux-mêmes. Ouais. Mais donc, en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on parle beaucoup des dégâts des sangliers sur le maïs, alors que, à mon sens, c'est vraiment les maïsicultures qui sont nuisibles, parce que non seulement c'est une culture qui n'est pas du tout écologique, mais une grande culture intensive qui ravage le paysage, parce qu'il n'y a plus d'animaux sauvages, il n'y a plus de place pour les animaux sauvages, à part justement des sangliers, quand il n'y a plus d'arbres, de petits bosquets, quand c'est des immenses parcelles de culture intensive qui sont très arrosées, notamment en été, parce que tout le monde sait que le maïs consomme beaucoup d'eau en été, d'où les besoins d'irrigation, ce qui n'est pas du tout écologique, les pesticides abondants, tout ça pour... être donné à des animaux d'élevage qui sont exploités d'une façon assez abominable, alors que, comme vous l'aviez rappelé au début de l'émission, on n'en a pas besoin pour notre alimentation humaine. Donc c'est assez aberrant, en fait. On est dans une situation où on a favorisé l'augmentation du nombre de sangliers, que les chasseurs s'arrogent le droit, et même en fait de façon tout à fait encouragée par les pouvoirs publics, de les entre guillemets réguler, donc en tuant un maximum, pour essayer de limiter les dégâts causés dans des parcelles de maïs qui elles-mêmes sont destinées à nourrir des animaux en élevage intensif, qui n'ont pas d'intérêt ni écologique ni pour l'alimentation humaine. Donc le système est totalement aberrant, en fait, du début à la fin. Si on revoyait la façon de cultiver, si on faisait en sorte de mieux protéger les parcelles techniquement contre des intrusions de sangliers, par exemple, et si on arrêtait de confier la gestion de ce problème aux chasseurs eux-mêmes, en voyant comment on peut éventuellement agir sur des populations de sangliers sans passer forcément par le fusil, eh bien le problème serait pas réglé très facilement, certes, mais ça pourrait à terme être régler avec une approche beaucoup plus respectueuse des animaux et beaucoup plus écologique.
Tout à fait, oui, tout à fait. Et donc là, c'est pareil, hein, on soulève le problème de l'influence. Qui se voit partout. Il y a un chapitre qui est assez édifiant, et je pense que il y a deux chapitres, hein, je pense que les gens vont vraiment découvrir des aspects qu'ils connaissent peut-être pas. C'est tout la gestion et l'infiltration des chasseurs dans tous ces espaces réserves naturelles, dans les écoles. Oui. Avec une sensibilisation, enfin c'est aberrant, c'est indécent, une sensibilisation, alors au développement durable, on emploie moins ce terme heureusement, et à la biodiversité et au respect de la nature, voilà. Donc c'est quand oui. même, voilà, c'est moi j'appelle ça, je dis que c'est indécent au niveau, voilà, c'est une indécence verbale. Comment on peut dire qu'on respecte la nature en tuant? Voilà, parce qu'il faut quand même pas oublier que le seul but du chasseur est de tuer. Voilà, et ça, je pense que c'est quand même important de le rappeler, et que voilà, on peut se poser la question comment et pourquoi on accepte qu'ils s'infiltrent comme ça partout sur des organismes ou des événements écologiques. Ou soi-disant écologique.
Oui, alors c'est en effet quelque chose qui est très méconnu et qui est lié au fait que justement le fait de tuer, c'est-à-dire la pratique de la chasse, l'essence même de la chasse qui par définition consiste à tuer un animal après l'avoir traqué ou pas, ou l'avoir attiré de différentes manières, en fait cette pratique-là est quand même de moins en moins bien accepté socialement, et les chasseurs ont de plus en plus de mal de justifier la chasse juste en disant on aime bien tuer des animaux. Donc ils essayent depuis maintenant beaucoup d'années de développer des stratégies pour faire accepter la chasse. Et dans cette stratégie là, une des plus importantes, c'est d'essayer de se faire passer pour écolo, et donc d'infiltrer à tous les niveaux les pouvoirs publics en menant des programmes d'action écologique. Alors qu'il soit réellement écologique ou que ça soit purement du greenwashing, du verdissement, ou que ce soit purement une arnaque, mais en tout cas, il y a la volonté pour eux de se faire passer pour écolo, et donc, ils plantent des haies, ce qui est tout à fait bien, hein, en effet, mais il n'y a pas besoin de chasser pour planter des haies.
Voilà, exactement.
Et ils jouent sur cet amalgame, disons, entre la pratique pure de la chasse, vraiment avec un fusil puis un animal, et puis les à-côtés de la chasse, en disant, vous voyez bien, nous sommes écolos parce que nous plantons des haies, c'est donc que la chasse est écolo, ce qui est un petit peu aberrant, un petit peu comme si Airbus ou Renault plantaient des haies, et on devrait en conclure que la voiture ou l'avion sont écolos. Donc c'est vraiment une stratégie qui a l'air comme ça un peu grossière, mais qui fonctionne très très bien en toute discrétion, puisque au niveau des conseils départementaux, des conseils régionaux, et puis au niveau des ministères, les collectivités publiques ou les pouvoirs publics confient aux chasseurs des gestions de milieux naturels, confient aux chasseurs, comme vous le disiez, la possibilité d'aller dans des écoles pour parler de biodiversité et même de respect des animaux. Ça nous paraît complètement ahurissant à dire comme ça, mais comme ils sont tout de même assez malins, je ne parle pas forcément des chasseurs de base, mais des dirigeants de la chasse, ce sont à la fois des lobbyistes professionnels et puis à la fois des gens qui sont des stratèges, et qui savent très bien comment fonctionnent les arcanes du pouvoir politique à tous les niveaux, eh bien, ils arrivent à recevoir des subventions pour aller comme ça faire vraiment de la propagande dans les écoles, mais ça se fait subtilement. Ils vont pas montrer aux enfants comment on tue un animal, ils vont faire le contraire. Ils vont dire, voyez, nous les chasseurs, nous sommes aussi des protecteurs, nous sommes les vrais écologistes, nous aimons les lièvres et les perdrix. Ils viennent avec des animaux empaillés pour leur expliquer la vie de ces animaux dans la nature. Donc évidemment, le but, c'est de faire accepter l'idée fausse selon laquelle les chasseurs seraient des protecteurs de la nature. Et ils sont en concurrence, en fait, aussi dingue que ça puisse paraître. Les chasseurs sont en concurrence avec des associations de protection de la nature au niveau des demandes de subventions dans les départements ou dans les régions. Et parfois, ils mènent des actions qui sont très très proches de ce que font des associations écologistes. Alors, ils entretiennent le flou comme ça. Et alors c'est parce qu'ils sont assez malins pour le faire, mais c'est aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de volonté de la part des hommes et femmes politiques de les aider. Et je pense que c'est aussi dû au fait que, quand même, parmi nos élus, il y a beaucoup, hélas, de gens qui vivent vraiment dans une image absolument idyllique de la chasse est complètement faussée, la chasse traditionnelle, Marcel Pagnol, la ruralité, comme si c'était quelque chose de sympathique. Et qui, ces gens-là, il y a des présidents de conseils régionaux bien connus qui sont des grands défenseurs des chasseurs. Eh ben, ils ont 50 ans de retard, vraiment. Ils envisagent les chasseurs comme étant des partenaires, des alliés. Ils essayent de sauver les chasseurs. Parce que les chasseurs savent bien que s'ils s'en tiennent simplement à dire bah, on va s'amuser à tuer des animaux dans la nature, au bout d'un moment, ça ne va plus passer socialement. Et ouais, c'est pour ça que...
J'avais relevé que selon un sondage Ipsos de 2018, 81% des Français ne sont pas favorables à la chasse.
Oui. Ouais. Autant les urbains que les ruraux, ce qui est intéressant, oui. Parce que les chasseurs mettent toujours en avant aussi l'opposition urbain-ruraux. Alors maintenant, parfois, ils parlent même plus de chasse. Ils disent, dès qu'on attaque la chasse, ils disent, mais vous attaquez la ruralité. Alors ce qui est drôle, alors moi, je fais partie des gens qui sont à la campagne. Et c'est drôle parce qu'à la campagne, c'est drôle, c'est assez dramatique. À la campagne, la plupart des gens n'aiment pas du tout les chasseurs parce que les ruraux sont les premiers embêtés par les chasseurs tous les week-ends et parfois tous les jours. Donc non, les gens n'aiment pas la chasse et c'est bien pour ça que les chasseurs essayent de trouver une stratégie pour se faire accepter socialement.
On fait juste une pause obligatoire et on reprend juste après.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my gun in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Vous êtes bien sûr CFM dans l'émission Combien de temps encore et on reprend donc notre entretien avec Pierre Rigaud, naturaliste, auteur du livre Pas de fusil dans la nature, les réponses aux chasseurs. Là on reprend, donc au niveau du milieu rural qui est aussi défavorable à la pratique de la chasse, parce qu'effectivement on est encore plus, on est encore plus touché de plein fouet. Quand on est obligé de changer trois fois de sentier parce que à chaque fois on voit les voitures et les gilets fluo, c'est vrai que on est touché de plein fouet aussi. Bon, c'est rien par rapport aux chevreuils qui sont dans les bois, hein, c'est évident. Mais Donc ça, c'est pareil. Et puis, ils sont en régression. Donc, je pense qu'ils essayent vraiment de mettre les bouchées doubles d'un point de vue politique, économique. Mais c'est pareil, tous les arguments économiques qu'ils peuvent mettre en valeur, quand une économie est basée sur un carnage ou sur des actions qui engendrent la mort et la souffrance, on change d'économie, on change le système économique. Il faut arrêter de justifier des pratiques barbares pour qu'une économie donnée subsiste. C'est à l'économie à s'adapter à une société morale et éthique, et pas l'inverse. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre. On pourrait très bien, et au niveau, je crois que c'est de la Cour des comptes, mais je suis un peu emmêlée dans les... qui disait que bon, il y a une économie de la chasse, mais qui pourrait très bien être basculée dans une autre économie sur des loisirs beaucoup moins... qui engendre souffrance et mort, tout simplement.
Oui, oui, parce qu'en effet, c'est une économie dite de loisirs. En fait, les chasseurs eux-mêmes, officiellement, mettent ça en avant. Ils mettent en avant le fait qu'ils pratiquent un loisir et qu'en effet, chaque chasseur individuellement dépense beaucoup d'argent entre les armes, le matériel, les déplacements en voiture et puis le permis de chasse. Donc, en effet, ils dépensent de l'argent et puis ça a été chiffré... au niveau national, ça apporte tant de centaines de millions ou plus, même de milliards par an au PIB. Mais en effet, comme c'est une économie de loisirs qui n'est utile à rien, il suffirait de changer de loisir pour que l'argent soit dépensé autrement, si on considère toutefois que ça doit fonctionner comme ça. Enfin, les chasseurs, en fait, dépensent de l'argent, donc en effet, ça rentre dans un système économique, mais par contre, ce qui est impossible à chiffrer, c'est le coût réel que ça engendre pour la société. Parce que quand on largue dans la nature des milliers ou des dizaines de milliers de tonnes de plomb, ce qui engendre une pollution, quand on tue des animaux par dizaines de millions, des animaux sauvages, dont certaines espèces qui sont en déclin, voire en train de disparaître, comment on peut chiffrer ça? C'est impossible. Quand on tue des gens, parce que des gens tous les ans sont tués à la chasse, certes ce sont très majoritairement des chasseurs, mais ce sont des humains qui sont tués. Quand on engendre de la souffrance sur des millions d'animaux qui sont non seulement ceux qui sont tués, mais ceux qui sont blessés, qui sont jamais retrouvés, quand on génère tout cet impact en fait réel sur les gens, sur la vie, sur la société, quand on empêche des écolos d'agir efficacement parce que les chasseurs s'opposent systématiquement à toutes les décisions écologiques, quand on bloque un pays politiquement sur des avancées écologiques, parce que moi-même qui fais partie, comme d'autres, des gens qui vont essayer dans les ministères ou autres d'obtenir des avancées écologiques ou sur la protection des animaux, on est sans cesse bloqué par le lobby de la chasse. Donc c'est quoi le coût réel de la chasse? Autant on peut chiffrer à peu près l'argent que dépensent les chasseurs, mais autant le coût engendré en négatif pour la société, pour la planète, il est considérable.
L'impact, oui, l'impact, tous les impacts négatifs que ça engendre et que ça engendre en chaîne, c'est au niveau de voilà, c'est ce que vous dites, ça c'est pas chiffrable en chiffres, mais c'est chiffrable en dans ce que ça fait dans la réalité.
C'est de la souffrance, ouais, c'est de la mort, c'est de la pollution concrète, c'est des conflits sociaux, parce que dans les campagnes, beaucoup de gens n'en peuvent plus de pas pouvoir aller, comme vous le disiez, de pas pouvoir aller se promener à tel endroit parce qu'il y a des chasseurs. C'est des gens qui sont tués, des animaux qui sont tués, donc c'est absolument considérable l'impact de la chasse, juste pour ce qui est un loisir, en tout cas présenté comme tel. Donc c'est en effet complètement anachronique.
L'impact aussi à une échelle beaucoup, là je reviens à une échelle beaucoup plus, beaucoup moins grande, mais l'impact aussi, c'est ce que vous dites, du fait que les chasseurs systématiquement bloquent, ne serait-ce que quand ils s'infiltrent dans des, voilà, à l'éducation nationale, dans les soirées Brame du Cerf, dans la douceur de l'automne, en compagnie de la fédération départementale de chasse du Tarn-et-Garonne, hein, dans la douceur de l'automne. Faut quand même oser écrire ça. Quand ils s'infiltrent partout, alors qu'il y a d'autres, ils bloquent aussi des associations, moi je pense à l'ASPAS par exemple, des associations comme l'ASPAS qui, alors elles, par contre, sont tout à fait des associations qui sont sincèrement écologiques et qui s'y connaissent énormément et qui seraient, elles, à leur place et qui feraient un peu avancer les choses. Donc, ils bloquent aussi, même à une petite échelle, ils bloquent une évolution qui pourrait être possible.
C'est leur stratégie, c'est de prendre la place, des associations de protection de la nature. Quand ils vont dans les écoles faire une animation scolaire, clairement, ils prennent la place d'animateurs nature professionnels qui auraient un discours beaucoup plus sensé, qui ne vanterait pas les mérites de la chasse. Quand ils font des soirées brindes du cerf, et ben ça attire des gens qui n'iront pas assister à des soirées brindes du cerf organisées par des associations de protection de la nature. En effet, mais c'est une stratégie qui hélas fonctionne assez bien, comme je disais, qui est aussi beaucoup dû au fait que les élus sont, pour beaucoup d'entre eux, d'accord avec ça. Donc, certes, les chasseurs, en tant qu'organisation, sont à blâmer pour ça, mais en premier lieu, ce sont les élus, ce sont les hommes et femmes politiques qui les soutiennent, et ça, c'est insupportable, parce qu'en fait, d'ailleurs, ce sont les mêmes élus qui soutiennent, par exemple, l'élevage intensif, qui bloquent toute avancée pour la protection des animaux. Ce sont les mêmes qui bloquent toute avancée pour l'écologie. Donc, finalement, les chasseurs, ils sont de mèche. Les chasseurs ont du pouvoir parce que on veut bien leur donner. Quand je dis on, c'est la société entière. Alors même que 80% des gens sont plutôt défavorables, voire franchement opposés à la chasse, eh bien, énormément de gens dans les ministères, à l'Assemblée nationale, parmi les sénateurs, parmi les conseils régionaux, départementaux et dans les communes, énormément d'élus ou de dirigeants sont favorables aux chasseurs. Donc il y a encore beaucoup de travail sur ce plan-là.
Oui, tout à fait. Sans compter que dans les parcs nationaux, on a le droit de chasser. Ce que découvriront
dans certains.
Ouais. On fait juste une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Pushing through the market square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left the science. News guy wept when he told us I was really dying. Cried so much that his face was wet. Then I knew he wasn't lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies, soaring toys and boys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. Had to cram so many things to store, everything in there. All the fat skinny people, all the tall short people, all the somebody people, all the nobody people. Never thought I'd need so many people. Girl my age went up ahead. It's some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed me. With a broken arm, fixed a stair to the wheels of a Cadillac. Hot Melvin kissed the feet of a priest, and the queer threw up at the sight of that. And I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long. The song. It was cold and it rained, and I felt like an actor. And I thought of mom, and I wanted to get back there. My face, your face, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk.
On reprend notre entretien avec Pierre Rigaud. Le problème des loups, que vous expliquez très bien aussi, en parlant de biodiversité et d'impact du loup, alors que l'impact sur la biodiversité du loup, elle est absolument pas négative. Par contre, les troupeaux entiers de brebis ont un impact négatif au niveau du milieu naturel montagnard. Donc c'est pareil, on inverse à chaque fois les choses. On est hors la loi aussi. La France est très souvent hors la loi au niveau de. Je sais pas où ça en est. L'ASPAS avait mené une action pour le quota de loups à abattre.
Parce que je crois régulièrement des plaintes.
Voilà, on ne respecte même pas au niveau européen les quotas qui sont donnés. Sur telle ou telle espèce.
Oui. Alors, le cas du loup, c'est qu'en fait, le loup en tant qu'espèce est protégé au niveau européen strictement, et les pays n'ont théoriquement pas le droit de chasser des loups. Ils ont le droit d'en tuer certains de façon exceptionnelle à titre dérogatoire. Mais la France, par exemple, a décidé qu'elle tuait 100 loups cette année, qui est gigantesque, et donc on n'est plus du tout dans le cadre de dérogations exceptionnelles, on est dans le cadre d'une chasse généralisée. Donc en effet, la France est complètement en contradiction avec les demandes de l'Europe sur ce cas-là. Et puis sur d'autres cas, oui, il y a les exemples tristement célèbres, par exemple des bruants ortolans qui ont été braconnés en France à raison de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de bruants ortolans tués tous les ans dans le sud-ouest avec la bénédiction et l'encouragement des pouvoirs locaux et même nationaux, alors que l'espèce est protégée. Donc c'est un braconnage officialisé par l'État. Donc en effet, les associations de protection de la nature ou des animaux doivent sans cesse lutter pour au moins essayer de faire respecter la réglementation qui est elle-même extrêmement laxiste et permissive, puisque on peut, de façon hélas légale, continuer à chasser des espèces dont les effectifs sont en déclin, qui sont menacées. On peut faire souffrir les animaux d'une façon particulièrement violente avec des modes de chasse qui sont extrêmement cruels. Il y a plein d'exemples. Le déterrage des blaireaux, par exemple, on va les chercher jusque dans leur terrier, on les attrape avec des pinces, on les fait déchiqueter par les chiens. La chasse à courre, évidemment, qui est vraiment une chasse particulièrement cruelle puisqu'elle consiste à faire durer le plaisir, si on peut dire, le plus longtemps possible, à faire courir le cerf ou autre animal le plus longtemps possible. Jusqu'à le noyer éventuellement, on a tous vu ces images, le noyer quand le cerf désespéré se jette finalement dans un étang, et bien les chasseurs montent sur la barque pour le tabasser à coups de rame ou l'enfoncer sous l'eau, etc. Enfin, c'est les pires ignominies en fait sont pratiquées avec plein de modes de chasse, aussi les chasses dites traditionnelles, la chasse à la glu, des chasses aussi où on utilise des animaux captifs pour attirer des animaux sauvages. Il y a plein de cas comme ça. Par exemple, les chasseurs utilisent ce qu'ils appellent des appelants, des canards ou d'autres oiseaux qui sont maintenus dans des cages ou qui sont attachés pour attirer leurs congénères sauvages qui seront tués ensuite. Des oiseaux qui sont maintenus toute leur vie dans des cages minuscules simplement pour servir d'appât pour les animaux sauvages. La maltraitance des animaux domestiques aussi dans le cadre de la chasse, par exemple les chiens utilisés pour la chasse à courre sont particulièrement maltraités, les chevaux aussi. Il y a plein de cas de vidéos qui ont été faites qui le montrent. La liste est tellement longue que parfois les citoyens ont peine à croire que ça puisse exister, enfin qu'on puisse encore autoriser ce genre de choses. Donc il y a le côté légal qui déjà est assez terrible, même extrêmement terrible. Et en plus de ça, quand il y a quand même quelques limites qui sont posées par la loi, eh bien, soit l'État ne les fait pas respecter, soit les chasseurs exagèrent, braconnent ou font des pratiques qui sont encore au-delà de la chasse. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas pourquoi je reviens à parler du braconnage là, mais il faut vraiment souligner le fait que le braconnage, c'est pas un truc marginal et anecdotique qui concernerait seulement quelques individus en marge. Pas du tout, on a beaucoup d'exemples qui sont... Et de cas chiffrés qui montrent que dès qu'il y a de la chasse, il y a du braconnage massif.
C'est pareil, on se doute pas. Braconnage, voilà, en général, c'est de temps en temps, il y a un petit braconnier par-ci par-là. C'est l'image oui, qu'on en oui, a, en fait. Voilà.
Oui. Oui, on pense que c'est un gars qui va aller attraper un lapin en bus ouais. Pour son civet du dimanche. Mmh. Non, non, on ne fait pas ça. En fait, étant donné la difficulté parfois à faire la différence entre des animaux qui sont chassables et puis des espèces protégées, étant donné le nombre de chasseurs, à peu près 1 million en France, en fait, étant donné la non-sélectivité de certaines formes de chasse, et puis par exemple quand on tire au fusil avec des plombs sur un oiseau, ça fait une gerbe de plombs qui se disperse, on peut comme ça atteindre plusieurs oiseaux en même temps, c'est très difficile de les identifier parfois quand ils sont en vol. Donc en fait, il y a des millions d'animaux qui sont blessés ou tués, qui ne sont pas des animaux visés au départ, ou bien ce sont des animaux visés mais qui n'appartiennent pas aux catégories d'animaux chassables. Donc, en plus des animaux officiellement tués à la chasse d'une façon légale, eh bien tous les ans, il y a dans les faits des millions d'autres animaux qui sont blessés à mort ou tués directement par des millions de chasseurs. Parce que les chasseurs ne sont pas des tireurs d'élite, parce qu'ils sont très nombreux, parce qu'ils ont une arme entre les mains et parce que parfois c'est tout simplement impossible de faire la distinction entre ce qu'ils ont le droit de chasser et ce qu'ils n'ont pas le droit de chasser.
Et puis parce qu'ils s'en moquent éperdument aussi de savoir s'ils ont le droit ou pas. Comme ils ne seront pas...
Une partie d'entre eux s'en moquent. Ouais. Oui, pas tous, ouais. Mais une partie... Je pense qu'en effet, c'est évident, une partie d'entre eux s'en moquent complètement. Ils savent qu'ils ne seront jamais contrôlés parce qu'il n'y a pas assez d'agents de police de la nature pour le faire. Ils ont eu l'habitude aussi d'être totalement dans l'impunité. Je parlais de l'histoire des bruants ortolans, mais quand ils ont eu l'habitude qu'on les laisse faire officiellement un braconnage, alors là, un braconnage volontaire, hein, qui consistait vraiment à rechercher la capture d'espèces protégées, quand même des ministres, on avait quand même le cas d'une ministre de l'écologie qui a un jour, à l'Assemblée nationale, il y a quelques années, dit qu'elle demandait aux agents de la police de la nature de ne pas contrôler les chasseurs qui chasseraient au-delà de la période autorisée, c'était pour le cas des oies cendrées, c'est complètement incroyable. Donc en fait, il y a beaucoup de chasseurs qui ont ce sentiment d'impunité qui a été vraiment encouragé par les pouvoirs publics pendant des décennies. Donc c'est normal que, hélas, que beaucoup d'entre eux se contrefichent éperdument de ce qu'ils ont le droit de faire ou de pas faire.
Là où on peut être optimiste quand même, c'est que déjà eux-mêmes, enfin déjà, le nombre est en baisse quand même, qu'il y a quand même une forte, au niveau de l'opinion publique, il y a quand même, les gens sont en majorité, je vous dis, moi j'avais trouvé ce chiffre, 80% de gens qui sont contre la chasse, et je pense par contre que les mesures, pas de chasse le dimanche, le mercredi, moi je pense que c'est pas suffisant, ça fait qu'endormir le problème, et que la seule solution, c'est l'abolition de la chasse. Et pas uniquement, pas le mercredi, pas le dimanche, pour les petites familles. On en revient à, toujours centré sur l'humain, la petite promenade. Moi, je pense que la seule solution, c'est l'abolition. Et que ça, il faudrait l'exiger au niveau politique.
Oui, je pense qu'il faut avoir cette... En tout cas, c'est mon point de vue également. Il faut avoir cette vision claire et radicale dans le bon sens du terme. Puisque la chasse est vraiment un acte extrême à mon sens, hein, comme vous l'avez rappelé au début, c'est quand même tuer un animal alors qu'il n'y a aucune nécessité à le faire tuer ou le faire souffrir, donc c'est assez aberrant. La question se pose vraiment pas de la nécessité, c'est absolument inutile de tuer des grives musiciennes, des fuligules milouins ou des renards, ça ne sert à rien. Donc il n'y a pas de nécessité pour l'humain, pour notre survie, pour notre bonne santé.
Il n'y a pas de légitime défense, donc.
Il n'y a pas de légitime défense non plus. Non, c'est vraiment pour s'amuser, c'est vraiment pour un loisir, une tradition, que sais-je. Donc, en effet, je pense qu'il faut clairement défendre le point de vue qui consiste à dire que nous demandons, nous voulons que ça ne soit plus autorisé de s'amuser à tuer des animaux. Autrement dit, nous demandons l'interdiction de la chasse. Mais même des toutes petites mesures ou des mesures un peu plus importante, comme par exemple interdire un jour de chasse par semaine, même ça, on n'arrive pas à l'obtenir politiquement. Donc les chasseurs vraiment s'accrochent. Mais en effet, je pense que ça a été une erreur pendant longtemps, d'une partie du milieu associatif d'ailleurs, de vouloir des mesures un petit peu trop gentillettes.
Ça endort le problème, ouais, en fait. Ça...
Je pense, il y a même beaucoup d'associations écologistes qui ont pactisé avec les chasseurs, parfois avec des bonnes intentions, non pas parce qu'elles aimaient la chasse, mais parce qu'elles se disaient on va essayer d'améliorer la chasse ou de rendre les chasseurs un peu plus écolos, on va essayer d'améliorer les pratiques. À mon sens, je pense que ça pouvait partir d'une bonne intention et ça permet d'obtenir des petits pas, des petites avancées. En effet, parfois, après, mais à long terme, je pense que c'est une erreur.
Non, et puis c'est ce que disent. C'est comme la notion de bien-être animal. Pour moi, c'est aberrant. Oui. C'est aberrant. Bien-être, un animal, il est bien quand il est libre, en tout cas pas en cage ou en tout cas pas dans un labo. Voilà. Donc mettre un centimètre de plus dans une cage, c'est aberrant. On ne fait que cautionner des pratiques qui sont moralement injustifiable en allant dans ce sens-là. On peut pas cautionner ça. Donc le bien-être animal ou des petites mesures, à mon avis, ça résout pas du tout le problème. Ça ne fait que se contenter de quelque chose qui est absolument pas satisfaisant et qui est pas envisageable moralement. En fait.
Oui. S'agissant de la chasse, je pense que ça hélas contribue à renforcer le pouvoir des chasseurs parce que les chasseurs maintenant s'affichent même avec des écolos en disant dans la main, voyez, nous sommes écolos. Alors, ce qui est assez terrible, c'est que par exemple, la Fédération française de randonnée a fait une convention, a signé une convention avec les chasseurs. Il y a beaucoup d'organismes publics, privés, qui pactisent avec les chasseurs, en espérant que les chasseurs seront plus respectueux. Mais en effet, ça ne fait que renforcer le pouvoir des chasseurs.
Ouais, ouais.
Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une position très claire, très radicale.
Voilà, très clair. Voilà, c'est ça. Voilà.
Et après, ça n'empêche pas. En tout cas, c'est ce que j'essaye moi de faire au quotidien, toute l'année. C'est-à-dire, on est bien obligé pour essayer d'obtenir des avancées, de travailler sur des choses ponctuelles, précises, sur tel ou tel dossier, tel ou tel endroit, telle mesure, telle espèce, mais il faut avoir vraiment comme horizon quelque chose d'évident pour moi, qui en effet est cette idée simple et claire, c'est-à-dire on arrête de tuer pour s'amuser.
Ouais,
voilà, c'est quand même
complètement.
Il faut ramener la chasse à ce qu'elle est vraiment. Voilà, il faut bien expliquer que si les chasseurs plantent une haie, bah c'est très bien de planter une haie. Par contre, tirer sur un oiseau migrateur, c'est pas la peine, quoi.
Ouais.
Donc,
et ça a aucun rapport.
Vraiment...
Il ouais, y a plein de, il
oui,
y a,
oui,
y a
oui.
plein de gens qui plantent des haies et qui tuent pas pour autant.
Donc, absolument, il faut pas rentrer dans le jeu des chasseurs.
Ouais.
C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en fait, dès qu'on affiche des positions comme celle-ci, alors on se voit absolument couper les vivres. Hein. Si des associations demandent des subventions en se présentant comme anti-chasse, ça va être très très compliqué. Si on veut, quel que soit le niveau auquel on essaye d'agir, eh bien on est tout de suite catalogué comme des extrémistes, et donc toutes les portes sont fermées. C'est vraiment très très difficile.
Mais je pense qu'il faut tenir bon, avoir une optique, c'est ce que vous dites, très claire, précise, et tenir bon, ce qui on peut s'en refuser forcément. Un dialogue, enfin d'en parler de façon sereine, mais peut-être pas aller jusqu'au. Enfin, le dialogue peut être dangereux. Je veux dire que le dialogue, à un moment donné, faut l'arrêter. Faut dire non. Voilà, moi ma position, elle est claire.
Bah, en tout cas, le dialogue. Moi, je suis complètement pour le dialogue, mais en ne lâchant rien sur sur ce qu'on demande et sur l'objectif à terme.
Ouais. On va arrêter là parce qu'on va se faire gronder par parce qu'on empiète sur le temps. Mais quitte à refaire une émission parce qu'il y a tellement de choses de problèmes à soulever. En tout cas, merci, vraiment merci encore d'avoir accepté cet entretien.
Et avec plaisir, merci à vous.
Et à très bientôt et bon courage.
Merci,
à bientôt, au revoir.
À bientôt.
Vous retrouvez l'émission en podcast sur CFM Combien de temps encore, avec de nombreuses pétitions à signer. À bientôt et bonne soirée.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.